Il y a une pression, il faut y aller, il faut absolument que cette année on puisse lancer pour montrer aussi au monde entier quoi, que l'Europe ne s'est pas terminée. Quoi, parce que maintenant on ne parle que de SpaceX, mais nous on est encore présents.
RFI, grand reportage.
Depuis près d'un an, l'Europe n'a plus son propre accès à l'espace. La fusée Ariane 5 est partie à la retraite l'année dernière. Sa cadette Ariane 6 doit s'envoler pour la première fois le 9 juillet. Un premier lancement crucial pour les Européens, bousculés par la concurrence de l'américain SpaceX, l'essor du secteur spatial chinois et la multiplication de start-up qui promettent de révolutionner l'espace avec de nouveaux engins de très petite taille. Ariane 6, une fusée pour renvoyer l'Europe dans l'espace, c'est un grand reportage de Justine Fontaine.
Il est 7h40 du matin au centre spatial de Kourou, en Guyane française, un site gigantesque qui fait la taille de la ville de New York. Plus de 1500 personnes travaillent ici, et en cette fin du mois d'avril, il fait pas loin de 28 degrés, avec une forte humidité puisqu'on est à la lisière de la forêt tropicale, pour ne pas dire dans la forêt tropicale.
Je vous ouvrez. À partir de maintenant, on laisse rentrer plus personne. Plus personne en entrée.
Ça y est, la porte du grand hangar dans lequel le corps central, la colonne vertébrale de la fusée Ariane 6 a été assemblée, vient de s'ouvrir. Ça ressemble à un grand cylindre blanc, plus de 40 mètres de long, bientôt 60 quand la fusée sera complète. Elle s'avance à l'horizontale, vers son pas de tir, quelques centaines de mètres plus loin, tout doucement, sous les yeux des équipes de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, du CNES, l'Agence spatiale française, et d'Ariane Group, entreprise européenne qui conçoit et produit les fusées Ariane et s'occupe aussi de leur commercialisation, c'est-à-dire de vendre des places pour les satellites dans la fusée.
Ok, c'est bien reçu, autorisation accordée, début de verticalisation. Ok.
La colonne vertébrale d'Ariane 6 arrive maintenant sur son pas de tir où elle est progressivement placée à la verticale sous un énorme portique, une sorte de grand hangar de 90 mètres de haut qui est amovible et sera donc retiré juste avant le décollage de la fusée.
Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES, c'est l'agence spatiale française.
Elle est assez émue de voir cette fusée enfin si proche du lancement après une série de difficultés en chemin et 4 ans de retard sur le programme initial.
Ça y est, on y est là. Ça y est, c'est demain. Demain, ce corps central va se propulser dans l'espace, va mettre en orbite des satellites. Et c'est vraiment la concrétisation du travail de milliers de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de poignant.
Le retard d'Ariane 6, donc comment on peut le résumer et l'expliquer?
Ariane 6 a connu du retard lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est la crise sanitaire mondiale qu'on a connue, qui a paralysé l'ensemble de l'économie mondiale et le travail. Et donc là, ça a beaucoup, beaucoup perturbé le développement des infrastructures sol ici en Guyane.
Donc les travaux ont été interrompus ici pendant la pandémie, pendant plusieurs semaines?
Pendant plusieurs semaines, effectivement. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce développement a été décidé pratiquement 30 ans après le développement d'Ariane 5. Et donc, on a dû, dans l'industrie, recréer des compétences qui avaient disparu. Et enfin, on doit bien le reconnaître, on a eu aussi des problèmes techniques à résoudre. Et ça, quand on est face à des aléas techniques, il faut prendre le temps de les traiter. Mais aujourd'hui, avec l'émotion du transfert, j'oublie ce retard.
Ce retard, pourtant, il est dans toutes les têtes ici, et c'est l'un des éléments qui fait que l'Europe du spatial se trouve à un tournant. Depuis près d'un an, les Européens n'ont plus leur propre accès à l'espace. Alors comment l'Europe en est-elle arrivée là? Il y a trois raisons à cela. D'abord, la guerre en Ukraine qui a poussé les Russes et leur fusée Soyouz à quitter le centre spatial de Kourou en mars 2022. Quelques mois plus tard, la fusée italienne Vega C a dû être détruite en vol après un problème technique. Elle ne pourra pas redécoller avant la fin de l'année. Et puis, il y a un an, Ariane 5, la grande sœur d'Ariane 6, a effectué son dernier vol et a pris sa retraite.
4, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Tous les paramètres à bord sont normaux.
Depuis la fin d'Ariane 5, les Européens ne peuvent donc plus envoyer dans l'espace leurs satellites militaires qui sont cloués au sol. Alors que la Chine multiplie les lancements et que l'Inde s'affirme de plus en plus comme une nouvelle puissance spatiale, l'Europe, faute d'avoir son accès à l'espace, a même été contrainte de faire appel à SpaceX pour lancer des satellites Galileo, du nom du système européen de géolocalisation. SpaceX, le grand concurrent américain, qui a chamboulé le secteur avec ses fusées réutilisables, des prix cassés et près de 100 lancements l'an dernier, tandis qu'Ariane 6 devrait en effectuer seulement une dizaine par an. On s'éloigne désormais du pas de tir et de la zone de lancement de la fusée pour aller vers la salle de contrôle Jupiter, quelques kilomètres plus loin, près de l'entrée principale du centre spatial de Kourou. C'est d'ici que sera donné le feu vert pour lancer la toute nouvelle fusée. Raymond Boyce, le directeur des opérations, sera chargé du compte à rebours. Il reconnaît que la concurrence de l'entreprise du milliardaire Elon Musk est dans tous les esprits.
Il y a une pression, il faut y aller, il faut absolument que cette année on puisse lancer. Je ne parle pas ni d'échec ni de succès, mais il faut qu'on puisse lancer cette année pour montrer aussi au monde entier quoi, que l'Europe ne s'est pas terminée. Quoi, parce que maintenant on ne parle que de SpaceX, mais nous on est encore présents. Donc il faut vraiment qu'on puisse montrer à l'Europe que son lanceur est prêt, qu'il est fiable et qu'il puisse faire peut-être une carrière aussi longue qu'Ariane 5.
Le tout premier vol d'Ariane 5 avait échoué, ce qui n'est pas rare pour un lancement inaugural, rappelle Raymond Boyce.
De toute façon, bon, il faut savoir qu'un premier vol, des fois, un échec peut être considéré comme un succès aussi. Bon, ça, je ne vous l'apprends pas, puisque bon, tout dépend à quel moment intervient l'échec. Ça peut être un succès aussi, parce qu'on apprend pour améliorer. Globalement, à la fin, on peut dire qu'il y a échec, mais globalement, on peut considérer que on a beaucoup appris, on pourra améliorer pour le suivant. Échec ou pas, c'est sans succès. Donc moi, je suis très polarisé sur la réussite de ce vol et je suis sûr que ça fonctionnera. On n'a pas pris 4 ans de retard pour rien, donc c'est bien pour peaufiner un maximum.
Apprendre de ces échecs, quitte à perdre beaucoup de fusées, c'est la stratégie de SpaceX, mais pas vraiment celle d'Ariane 6, qui a un modèle de financement public nettement plus rigide. Le mot d'ordre est donc à l'optimisme au sein du centre spatial. Michel Bonnet, directeur pour l'ESA du vol inaugural d'Ariane 6, tient aussi à relativiser la comparaison avec le concurrent américain.
On ne va pas nier qu'il y a une période compliquée. Après, c'est difficile de comparer le marché, j'allais dire, ouvert à Ariane et celui de SpaceX. Il ne faut pas oublier que SpaceX, son premier client, c'est Starlink.
Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite, qui appartient lui aussi à Elon Musk.
Donc, M. Musk, il est lui-même son premier client. Donc, il a une capacité de baisser les prix et de faire une concurrence qui est effectivement déloyale. Bon, il a le droit de le faire, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, c'est difficile de faire la comparaison.
Concurrence déloyale ou pas, près de 80% des vols de SpaceX l'an dernier ont en effet été pour mettre en orbite des satellites de Starlink. Cyril Ponroy, directeur de mission du vol inaugural pour Ariane Espace, tacle la concurrence américaine. Pour lui, Ariane, c'est une voiture de luxe très performante et SpaceX, une entreprise low cost.
Quand vous achetez une Ferrari, vous achetez une Clio, vous achetez un service. C'est deux services différents. Les clients qui viennent chez nous achètent un service de très haut niveau. Et on a eu les échos, un client qui avait été signé chez nous et qui malheureusement, suite à du retard de son côté, est sorti de son créneau de lancement, donc on n'avait plus de possibilité de le lancer. Il a été lancé chez SpaceX et on a eu donc, le retour direct du client qui a passé 6 semaines chez SpaceX. À la notion de service chez SpaceX est très loin, ils ne payent pas cher, mais ils n'ont aucun service.
SpaceX prendrait donc moins soin des satellites de ses clients avant le lancement, selon lui. Ariane est par ailleurs plus précise au moment de placer les satellites en orbite. Et puis un monopole, une seule entreprise qui domine le marché des fusées de grande taille, ce n'est pas souhaitable pour le business spatial, conclut-il.
Madame, monsieur, bienvenue à Paris Aéroport Charles de Gaulle. Il est 7h en heure locale.
Face à la crise des fusées européennes, les États membres de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ont décidé en novembre dernier de remettre la main à la poche à partir de 2026, jusqu'à 340 millions d'euros par an pour Ariane 6, notamment pour faire face à l'inflation. En contrepartie, les industriels se sont engagés, eux, à baisser de plus de 10% leurs coûts de production. Surtout, les membres de l'ESA, Allemagne en tête, ont acté l'ouverture à la concurrence des fusées européennes. Une petite révolution dans le secteur, comme l'a souligné le directeur général de l'ESA, Joseph Aschbacher, pendant une conférence de presse.
Le transport spatial est un sujet très délicat pour l'Europe aujourd'hui. Les 22 États membres de l'ESA se sont mis d'accord pour changer la façon dont nous financerons les fusées, les lancements à l'avenir. L'ESA va ainsi lancer un concours de fusées sans restriction de taille ou de poids, dans le cadre duquel nous demanderons aux industriels de proposer leurs services de lancement. Il s'agit d'une toute nouvelle façon de procéder, d'un véritable changement de paradigme.
Un changement de paradigme inspiré de ce qui se fait aux États-Unis avec SpaceX. Depuis quelques années, les initiatives privées se multiplient dans le spatial. Les startups sont de plus en plus nombreuses à développer leurs propres fusées.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Reims. Nous serons reçus à la voie E. La descente se fera côté droit dans le sens de la marche. Avant de descendre, assurez-vous d'avoir pris tout vos bagages et sac à dos.
On est à Reims, dans l'est de la France. On va aller retrouver une start-up qui se prépare à se lancer dans l'espace avec de petites fusées. C'est un type de fusée qui doit être dédié au lancement de très petits satellites. Il y a énormément de start-up qui sont en train de se lancer dans ce domaine. Et donc, on va essayer d'en savoir plus. Donc, on va prendre la voiture pour aller jusqu'à l'aéroport de Vatry. C'est à une cinquantaine de minutes d'ici en voiture. Et c'est là que la start-up qu'on va voir, qui s'appelle Latitude, fait ses essais en vue de préparer donc, cette fusée qui doit être lancée l'année prochaine, en 2025. On vient d'arriver à l'aéroport, il y a un peu de vent. Allô ?
Vous êtes sur quel parking ?
Je suis sur le parking passager. Je suis à côté de la voiture là.
Je vous vois.
Ok. A tout de suite, je traverse. On entend des avions qui passent. L'armée belge organise des exercices ce matin à l'aéroport.
Petite signature encore ici pour vous.
Bonne journée.
Merci. À tout à l'heure, il faudra venir me rendre les badges. Dès que vous avez fini.
On récupère un badge d'accès, puis on arrive devant quatre petits hangars en béton avec des préfabriqués dedans. On est sur une ancienne base militaire de l'OTAN. On voit aussi plusieurs conteneurs. C'est ici que la start-up Latitude fait des essais sur les différents éléments de sa future petite fusée, Zephyr.
Moi, je suis Nicolas Delery, je suis le coordinateur de la zone d'essai de Vatry.
La salle de contrôle des essais se trouve dans l'un des préfabriqués.
Donc là, on a à l'intérieur 5 pupitres, des écrans, des PC, où on va pouvoir voir toutes nos vannes, tous nos capteurs de température, de pression, etc. Et ça nous permet de contrôler comment se déroule l'essai en direct live.
Donc ça ressemble à des bureaux avec des ordinateurs qui sont dans un préfabriqué. Et c'est sur ces écrans donc, que tous les capteurs vont être suivis par vos opérateurs, par vos salariés.
Exactement.
Deux autres bancs d'essai servent à faire des tests sur des éléments du moteur.
Là, nous sommes devant le banc turbopompe. Donc c'est ce qui nous permet de mettre en pression la chambre de combustion et donc d'envoyer les fluides à la pression désirée. Donc on construit en ce moment même tout le banc. En fait, l'ensemble turbopompe, chambre de combustion, c'est les deux principaux éléments d'un moteur fusée. Pour l'instant, le test du moteur, il est prévu fin d'année, début d'année prochaine. Et donc on pourra s'assurer qu'il est opérationnel.
La fusée construite par la start-up française sera trois fois moins haute qu'Ariane 6. Elle ne pourra emporter que 100 à 200 kg de charge de satellite, donc contre 5 à 10 tonnes pour la fusée européenne. Latitude pourrait effectuer son premier lancement à la fin de l'année prochaine.
Alors Adeline Pitrois, je suis directrice commerciale chez Latitude. C'est une société qu'on peut appeler donc de la catégorie du New Space, donc qui a été créée en 2019. SpaceX a été un des précurseurs justement de ce mouvement du New Space. Il y a plusieurs caractères qu'on peut associer à ce mouvement. Le premier, c'est un financement plutôt privé, alors que le spatial était plutôt issu de financement public. Et également une façon de penser différente. SpaceX a été précurseur, ce qu'on appelle fail fast, learn fast.
Précurseur. Alors en français, donc c'était une méthode itérative, voilà. En fait, apprendre de ses échecs.
On échoue, on apprend, on teste, on échoue, on apprend. C'est vraiment cette méthode de développement itératif, en tout cas, qui a été également insufflée dès le départ, nous, chez Latitude, et qui va nous permettre d'arriver donc, rapidement, donc avec un premier tir qui est prévu fin 2025. Et ce premier vol va être ce qu'on appelle un vol test, qui ne sera pas un vol commercial, qui sera vraiment un vol test dans cette logique de développement itératif. Et le premier vol commercial, lui, est prévu pour mi-2026.
Ça veut dire que ce qui peut paraître comme un échec aux yeux du grand public, vous, ça va vous permettre plutôt d'apprendre pour essayer d'avoir ensuite plus vite un premier vol commercial réussi ?
Oui, alors c'est encore compliqué aujourd'hui dans la culture européenne d'avoir cette approche, puisqu'on le sait très bien et on le voit avec l'arrivée d'Ariane 6 dans quelques mois. C'est très compliqué de pouvoir penser l'échec comme étant une réussite. C'est plutôt ce qu'on peut appeler une mentalité américaine. Mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place, puisque nous, on estime que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le plus vite et qu'on arrive très vite à détecter les difficultés, les problèmes, corriger et retourner en test.
La société a levé environ 50 millions d'euros et a reçu aussi le soutien de l'État français. Elle vise le marché des très petits satellites, qu'ils appartiennent à des institutions publiques ou bien au secteur privé.
L'objectif pour nous, c'est d'offrir à des clients un vol dédié. Juste pour rappel, aujourd'hui, les petits satellites sont obligés de passer par ce qu'on appelle des vols rideshare, donc c'est des vols partagés. C'est comme si, pour vous déplacer, vous aviez que des bus et vous aviez absolument pas de taxi. Donc tout le monde est obligé d'aller au même endroit. Ces petits satellites n'ont pas le choix en termes de planning de lancement, n'ont pas le choix sur la façon de penser leur mission, puisqu'ils ont des orbites imposées par ces vols partagés. Donc nous, on envisage, alors c'est un objectif, d'offrir des vols dédiés entre 3 millions et 5 millions, ça dépendra de la version du lanceur.
3 à 5 millions d'euros pour un lancement contre près de 100 millions pour une fusée Ariane, beaucoup plus grande. L'agence spatiale française sera le premier client commercial de Latitude. Une manière pour Paris de soutenir cette start-up face aux jeunes sociétés d'autres pays européens dans la course aux petites fusées. Adeline Pitrois le sait, la concurrence sera rude.
On le voit même autour de nous, on le voit au fur et à mesure, il y a énormément de projets qui évoluent ou qui disparaissent. Et le marché va se décanter progressivement. Plus il y aura des solutions de lancement, plus il y aura des solutions de lancement diversifiées. Et plus les clients en face auront la possibilité, eux, de varier leur business ou de varier leur constellation, leur projet satellite.
Ailleurs en Europe, la start-up allemande Isar Aerospace prévoit d'envoyer sa première mini-fusée dans l'espace dès cette année. L'espagnol PLD Space a fait voler avec succès un prototype de mini-lanceur l'an dernier. Et même Ariane Group, qui fabrique Ariane, a créé sa propre filiale pour développer une petite fusée appelée Maya.
Ariane 6, une fusée pour renvoyer l'Europe dans l'espace, c'était un grand reportage de Justine Fontaine, réalisation Pauline Leduc.